Chanson de Georges Brassens, Les Bancs Publics.
Oh,
En 1986, sortaient Fable et Le Nouveau Monde, un dessin animé pour les enfants, produit par Steven Spielberg, qui racontait l'histoire d'une petite souris qui voyageait en Amérique. Mais ceux qui ont vu le film ont découvert que ce Fable s'appelait Souriskevich, qu'il habitait en Pologne, qu'il était obligé de quitter son village natal à cause des pogroms et qu'il émigrait aux États-Unis, la nouvelle terre promise. Magnifique métaphore pour expliquer les migrations des juifs ashkénazes en Amérique dans les années 30. Le film commençait tranquillement autour d'une soirée de Hanouka.
Vous me donnez le vertige avec
votre tâche. Mais moi, c'est Hanouka.
Avec toi, tous les soirs, c'est Hanouka. Papa, ça suffit maintenant. Il faut qu'il parle, ses enfants.
Ah, d'accord, d'accord. Oui.
Et les cadeaux? Où tu as mis les cadeaux?
Les cadeaux? Mais quel cadeau?
Oh, papa.
Mais c'était pour rire. Pour Tania, une nouvelle capuche. Joyeux Hanouk, Tania.
Oh, papa, merci beaucoup.
Je croyais que tu avais une mère aussi.
Merci, maman.
Et pour toi, Fievel, une casquette neuve. Et pas n'importe quelle casquette. Une casquette neuve qui a appartenu à la famille depuis 3 générations. Elle a appartenu à moi, à mon père et au père de mon père. Et maintenant, elle t'appartient à toi. Joyeux Hanouka, Fievel.
Elle est trop grande.
Tu grandiras.
Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de la souris géante du Minsk?
Non! Non! C'était pas une souris qui avait des très longs cheveux et le prince grimpait le long des cheveux?
Non! Cette souris-là, la souris de Minsk, il était grand comme un arbre. Sa queue, il faisait 1 kilomètre de long.
C'est vrai?
Bien sûr que si, c'est vrai. Il était tellement gros qu'il faisait peur aux chats.
Chut! Ne dis pas ces mots. Tu ne peux pas parler d'autre chose.
L'Amérique.
Encore un conte de fées.
L'Amérique. Oui, quel paradis.
Quel paradis.
En Amérique, il y en a des trous de souris dans tous les murs.
Qui t'a dit ça?
Tout le monde.
Tout le monde.
En Amérique, il y a des miettes de pain sur toutes les armoires.
Raconte des bêtises.
En Amérique, on a le droit de dire tout ça que l'on veut. Mais le plus important, et ça, je sais de quoi je parle. En Amérique, il n'y a pas de chats.
Chut, ils vont t'entendre.
Comment veux-tu qu'ils nous entendent?
Ouf, tu vois.
Référence au cinéma encore, l'un des films qui a le mieux fait connaître Israël au grand public et notamment au public américain, c'est Exodus, le film d'Otto Preminger. L'épopée tragique d'un bateau rempli de nouveaux immigrants en Israël et qui sera rejeté par les autorités britanniques. Sa musique est célèbre à tel point qu'Edith Piaf en a fait une version.
Dans un soleil d'hiver, ils sont partis courir la mer pour effacer la peur, pour écraser la peur que la vie les ont pleuré les larmes de la mer. Ils ont versé tant de prières. Délivrez-nous, nos frères. Délivrez-nous, nos frères. Que leurs frères les ont tirés vers la lumière. Ils sont
évoquions tout à l'heure la fête juive de Hanouka, autre fête du calendrier juif, Pessah, la Pâque juive, avec cette chanson traditionnelle qui termine le repas, Chag Gadya. En voici une version par la chanteuse israélienne Chava Halberstein.
Chag Gadya, Chag Gadya.
פתאום את שרה חד גדיה, אביב עוד לא הגיע ופסח לא בא. ומה השתנה לך, מה השתנה? אני השתניתי לי השנה. ובכל הלילות, בכל הלילות, שאלתי רק ארבע קושיות. הלילה הזה יש לי עוד שאלה, עד מתי יימשך מעגל האימה? וסוגדיש הלב, היום אני נמר וזאב טורף. הייתי כבר יונה והייתי צבי, היום איני יודעת מי אני. וסבינה במזריזוס, חד גדיה, חד גדיה, כנבי נוגדי בשני סוסים, שוב מתחילים בהתחלה.
Tel Aviv, capitale culturelle et économique d'Israël, lieu qui bouge, lieu de fête. Certains d'entre vous en cet été vont y aller ou en reviennent. Mais déjà dans les années 70, Mariano Marini évoquait la bulle, cette ville blanche, Tel Aviv.
Shalom, shalom, goodbye, goodbye, au revoir, arrivederci. T'ho incontrata, t'ho fermata qui a Tel Aviv. T'ho sognata, t'ho adorata qui a Tel Aviv. Ogni giorno t'ho baciata, mi dicevi sì. Chiedimi forte a te così e non pensare a nulla se ti bacio. Ma d'un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. Mai mentito, mai tradito, mai spezzato il cuore. E così finì il mio sogno a Tel Aviv. T'ho incontrata, t'ho fermata qui a Tel Aviv. T'ho sognata, t'ho adorata qui a Tel Aviv. Ogni giorno t'ho baciata, mi dicevi sì. Tienimi forte a te così e non pensare a nulla se ti bacio. Ma d'un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. Mai mentito, mai tradito, mai spezzato il cuore. E così finì il mio sogno a Tel Aviv. Se ti bacio, ma d'un tratto sei cambiata qui a Tel Aviv. Forse un altro ti ha stregata qui a Tel Aviv. Mai mentito, mai tradito, mai spezzato il cuore. E così finì il mio sogno a Tel Aviv. E così finì il mio sogno a Tel Aviv.
Abanot Neshama, groupe vocal de jeunes femmes israéliennes. Leur voix est un enchantement. Cette chanson aussi, Boy, vient. Sont parfois au cœur de ces musiques insolites. Le rock de Hanouka.
Hanouka, I know it's gonna be alright. Everyone's together tonight. Feeling good, it's Hanouka. Two candles lit, the holiday's just begun. We're in for lots of fun. The time has come, it's Hanukkah.
Bientôt 17h30, l'heure pour nous de faire une petite pause.
Réservez vos places pour une belle soirée festive le 17 juin au Jam à Montpellier. Tout en musique et en humour pour soutenir Radio Aviva. Participez à la tombola dotée de nombreux lots de prestige, dont deux billets d'avion aller-retour pour Palma. Au programme de la soirée, un concert de jazz par The International Jazz Quartet, composé de Eric Luther, David Cross, Eric Gilles et Arthur Fell. Le concert sera accompagné d'une démonstration de danse par une école de swing. Vous pourrez aussi assister à un stand-up de 5 artistes du Fridge Comedy Club, Amine, Aliénor, Gabriel Bourdon, Michael Kondo et Julie Brimby. Les billets sont en pré-vente à 22€ et seront à 25€ sur place dans la limite des places disponibles. Alors inscrivez-vous vite à la Tombola et à cette superbe soirée sur la page Hello Asso de Radio Aviva.
Le week-end, la quatrième dimension vous propose un best-of, le meilleur de la semaine écoulée. 2 heures pour s'intéresser à la pop culture dans tous ses états, portraits, reportages, recommandations. La quatrième dimension, c'est tout ça, et bien plus encore.
The dogs are sleeping. She's leaving the cape and the wheels are turning. Dancing on ice, but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. They all start swaying. Down in the club where the joint is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. Show the big dogs what to do. There's a cool cat in town. Oh, believe me, no cat's cool as this kitty cat. Yeah. She won't wait for a new dog around. Who don't like some cats in town? A cool kid around. But ba-dee-ba, a cool
attendait depuis longtemps, les éditions Michel Lafon publient Steven avant Spielberg, une biographie romanesque de l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. signé du journaliste réalisateur et auteur Gilles Panceau, on découvre tout au long des 320 pages les coulisses du cinéma, mais également l'histoire personnelle de Steven Spielberg. Une analyse détaillée de sa filmographie en lien avec son enfance, ses peurs, ses aspirations, mais surtout sa passion pour la caméra et la réalisation.
Ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose sur Steven Spielberg parce que c'est quelqu'un qui me fascine depuis très longtemps. Et j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, mais j'étais pas du tout sûr que ça allait marcher parce que, à ma connaissance, je ne sais même pas si ça existe. C'est-à-dire que c'est à la fois une biographie romancée de son enfance, donc racontée comme si on lisait un roman, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui n'a qu'un rêve dans sa vie, c'est de faire des films, et que cette biographie romancée de son enfance se transforme petit à petit en analyse de films, sans être trop élitiste, sans être trop universitaire, c'était pas du tout la démarche. Je voulais être le plus grand public possible, toucher le plus de gens possible, sans jamais perdre de vue que c'est de son enfance que je parle, et en fait, en filigrane de tout ça, ce que je voulais expliquer, c'est que, de mon point de vue, tous les films de Steven Spielberg sont des films intimistes qui portent en eux ce qui le faisait rêver, ce qui lui faisait peur, ce qui le transportait quand il était enfant. En fait, tous ces films parlent de lui enfant, en fait.
Le livre de Gilles Panceau fait également la part belle aux idoles de Spielberg, tels que Stanley Kubrick ou Alfred Hitchcock, mais également à ses coups de cœur cinématographiques, comme Laurence d'Arabie de David Lean, et les influences que tout cela a eues sur sa propre production.
J'ai dégagé 8 grands thèmes, parmi tous les thèmes qu'on peut retrouver dans la filmographie de Steven Spielberg. Il y en a 8 qui m'ont paru très importants et qu'on retrouve vraiment de manière récurrente dans tous ses films, sans forcément chercher à faire des recoupements artificiels, hein, ça apparaît de manière assez naturelle. Et ces 8 thèmes sont portés par une anecdote ou plusieurs anecdotes de son enfance. Alors, tout ce travail-là, c'est un travail d'abord de recherche, d'archéologue. J'ai presque fait mon Indiana Jones, là, parce que j'ai énormément étudié dans les archives. J'ai relu et revisionné toutes les interviews accessible de Steven Spielberg. Je l'ai rencontré moi-même à plusieurs reprises. J'ai aussi fait des recherches un peu plus, on va dire, atypiques que ce qu'on fait d'habitude si on veut faire un livre ou un film sur Spielberg. Par exemple, j'ai retrouvé la synagogue dans laquelle il a fait sa bar mitzvah, dans laquelle ses parents se sont mariés. Et j'ai retrouvé les archives de cette synagogue-là. J'avais besoin de la voir, de voir à quoi elle ressemblait dans les années 50 et 60 pour pouvoir la décrire. J'avais besoin de récupérer tout ça pour être le plus précis possible. Et une fois que j'avais tout ça, j'étais libre de le raconter à ma manière, c'est-à-dire comme un roman, parce que c'est ce que j'explique dans la postface, c'est-à-dire que je m'autorise une petite licence artistique en disant que c'est romancé. Mais ça s'appuie vraiment, vraiment sur la réalité.
Découverte des coulisses du réalisateur, analyse pertinente de chacun de ses films, vous ne verrez dorénavant plus les films de Steven Spielberg de la même manière.
Pour moi, il était important de consacrer un chapitre entier à son rapport à la religion, qui est un rapport compliqué. En fait, Steven Spielberg, au départ, c'est un juif honteux. Vraiment, il le dit et il l'affirme lui-même. Il voulait pas être considéré comme le juif de son quartier. Il avait même l'impression qu'il était le seul juif de son quartier, ce qui est complètement faux. En faisant suffisamment de recherches, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait pas une seule famille juive dans son quartier. Et lui avait l'impression que, le soir de Noël, toutes les maisons étaient illuminées, sauf la sienne. La sienne, c'était un trou noir sinistre. Et lui, l'une de ses frayeurs, c'était d'être mis sur le bas-côté, d'être le paria, c'est-à-dire d'être différent des autres. Il a toujours voulu s'intégrer au lycée, au milieu de ses copains, chez les scouts où il était. Et être le juif, pour lui, c'était presque une malédiction. En plus, il était très complexé par son physique. Il avait l'impression d'avoir le physique du juif tel qu'il est représenté dans les caricatures, avec ce gros nez, avec ses grandes oreilles. Donc il a vraiment fait un complexe là-dessus. Il adorait ses grands-parents, notamment son grand-père Fievel, mais qui était un grand-père ultra religieux. Donc quand son grand-père se mettait à faire l'office chez lui, dans sa tenue de rabbin orthodoxe, ça l'embarrassait terriblement. Il était hyper angoissé à l'idée que ses copains puissent voir ce grand-père dont il avait honte, finalement. Mais parallèlement, les histoires que lui racontaient ses grands-parents sur leur passé en Europe de l'Est, les chansons yiddish qu'il lui chantait, tout ça, ça le fascinait quelque part. Et puis il a découvert la Shoah. Ses parents et ses grands-parents parlaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est difficile quand on a une grande partie de sa famille qui a disparu pendant la Shoah de pas en parler. Mais c'est resté abstrait pour lui et pour ses trois sœurs jusqu'à ce que à l'école, ils voient des images documentaires de camps de concentration, que là ils comprennent, enfin que ça devienne, ben, que ce ne soit plus abstrait, quoi, que ça devienne des images réelles, des images frappantes. Mais petit à petit, il s'est rendu compte que ce judaïsme, son rapport à la religion, il fallait qu'il l'assume, et ça s'est fait par strates progressives, avec la mort de ses grands-parents, bien sûr, et puis il a produit un film d'animation qui s'appelle Fievel et le Nouveau Monde, qui raconte, version dessin animé avec des souris et des chats, l'histoire de ses grands-parents, hein, venus d'Ukraine aux États-Unis, et chassés pendant les pogroms, enfin essayant de devenir, de s'intégrer dans la société américaine. Et mais on sait que le grand saut, il l'a fait en réalisant La Liste de Schindler. Il faut savoir que La Liste de Schindler, c'est un roman, enfin c'est un roman, c'est un livre au départ, qui date des années 80 et qu'on lui a proposé de l'adapter dès les années 80, qui a toujours refusé. Il s'est dit non, c'est pas pour moi. Il a demandé à plein de copains réalisateurs de le faire à sa place. Ils lui ont tous dit c'est à toi, c'est toi qui dois faire ce film-là. Et il l'a fait, il l'a fait. Et au moment où il a fait ce film-là, c'était une manière de enfin d'assumer son judaïsme, d'assumer tout le poids de la tradition de sa famille et de devenir un cinéaste juif.
Steven avant Spielberg de Gilles Panceau est disponible aux éditions Michel Lafon.
Shirim.
C'est un moment Shirim, la chanson en hébreu. Shlomo Artzi, Nof Yaldot.
בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים חלפו הרבה שנים נוף הבתים כבר מתפורר וקירותה נעלמים חלפו הרבה שנים חלפו הרבה שנים בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני רגע העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדי כבר נשברו ענפים קפצה זקנה פתאום אני הולך ועד איתי וכולם נעלמים קפצה זקנה פתאום איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף בגן העדן של ילדות אשר
producteur de podcasts pour France Culture ou Arte Radio, Léa Weinstein est aussi une écrivaine de talent. Dans son premier livre, Isaac, elle interroge de façon subtile et autobiographique le lien naturel entre le judaïsme, les oubliés de l'histoire, la transmission d'un héritage au moment de devenir soi-même parent. Issu d'une famille intellectuelle de gauche, son père, Alain, est écrivain et homme de radio. Il est juif, mais athée. Sa mère se définit comme juive de cœur, mais tout aussi athée que son mari. Léa Weinstein.
Ce qui déclenche, en fait, c'est... Il y a un mouvement que je raconte un peu dans le livre, c'est-à-dire au début, des choses qui se passent presque malgré moi ou sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire un attrait chez moi, une attirance de toute évidence pour des choses qui ont un rapport plus ou moins proche avec le judaïsme. Donc c'est d'abord dans mes études de philo, la découverte de Lévinas, une grande passion pour Lévinas, et puis après c'est Walter Benjamin, et puis après c'est Kafka. Et donc forcément, voilà, il y a quelque chose qui se tisse comme ça. Ça passe aussi par ma mère, paradoxalement, donc l'autre côté de ma famille, qui elle a grandi dans un milieu catholique, qui n'est pas juive du tout, et qui pourtant, par elle aussi une sorte de suite de coïncidences de la vie, a porté un nom juif parce que son premier mari était juif. Elle l'a rencontré dans un kibboutz, donc déjà il a fallu qu'elle y aille. Donc elle avait, pour d'autres raisons qui sont les siennes, mais elle avait elle aussi cet attrait-là, et donc elle me l'a transmis, je pense. Donc du côté de mon père, c'était complètement silencieux, mais du côté de ma mère, qui n'était pas juive, c'était quelque chose qui était présent. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser, puis je me suis retrouvée à travailler au mémorial de la Shoah. Et puis, comme vous le savez, quand on commence à entrer sur le territoire de l'histoire de la Shoah, on n'en sort plus, quoi. J'en suis plus jamais sortie, et c'est devenu quelque chose de très présent dans ma construction intellectuelle et même personnelle, et voilà. Et donc, en fait, petit à petit, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de petites planètes comme ça qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres, commençaient à tourner autour du même soleil qui était le judaïsme. Mais moi-même, je m'en rendais pas compte, en fait. Ça a été après la rencontre de mon mari aussi, qui lui est issu d'une famille traditionnaliste, donc qui a grandi dans la religion, qui après s'en est détaché. Mais voilà, il y avait plein de trucs qui allaient dans cette direction, et donc à un moment je me suis dit, mais pourquoi quelque chose a l'air de m'appeler, quoi, par là. Et pour le comprendre, il m'a semblé qu'il fallait trouver en quoi, si j'étais juive, en quoi je l'étais, pourquoi je l'étais, d'où ça venait.
L'identité juive ou pas de la famille de Léa fait l'objet d'un tabou et le sujet n'est jamais évoqué. Toutefois, elle sait que son grand-père était rabbin, mais un silence absolu plane sur cet homme dont même son père ignore le prénom.
La génération qui dans ma famille est celle de ma grand-mère, qui a rompu avec la religion, l'a fait de manière tellement radicale que c'était presque nié. C'est un peu différent d'être dans le silence ou d'arrêter de pratiquer une religion. Bon, ça arrive à plein de gens, dans plein de familles, et puis c'est un peu une évolution naturelle aussi. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est d'un coup, on n'en parle plus. On ne dit plus qu'on est juif, on s'invente une autre identité, on est presque des maranes, quoi. On vit autre chose, on est dans une autre construction. Donc c'est, bien sûr, ça croise l'histoire de l'assimilation, l'histoire du silence après la guerre aussi dans les familles juives. Mais Il y a un petit biais, quoi. Il y a quelque chose d'un tout petit peu différent qui, là, va se cristalliser autour du personnage très fascinant de ma grand-mère. Donc, fille de rabbin, en fait, puisque Isaac était Razan, exactement, mais voilà. Et qui, elle, au moment de la guerre, en fait, décide d'arrêter de, non seulement de pratiquer, mais aussi de plus dire à ses enfants, de pas dire, de jamais dire à ses enfants qu'elle était juive ou qu'ils étaient juifs, et de faire disparaître ça en quelque sorte. Il y avait comme seul petit caillou au départ, il y avait cette légende un peu racontée comme une blague qui disait on n'y connaît rien au judaïsme, personne ne sait même ce que ça veut dire Kippour ou pourquoi il faudrait pas manger de cochon, enfin voilà. Mais par contre, on avait quand même un arrière-grand-père rabbin. Donc le point de départ de l'enquête, c'est c'est qui ce rabbin, puisqu'apparemment c'est celui auquel on peut remonter en termes de références religieuses dans la famille. Et donc l'enquête commence là-dessus, et je trouve assez facilement dans quelle synagogue il officiait. J'y vais donc avec ma sœur et une de mes cousines. C'est là où je dis que c'est une histoire de génération. On part vraiment toutes les trois. On se rend dans cette synagogue qui est la synagogue de la rue Ansel à Neuilly. Et là, on nous avait dit qu'il y avait une plaque. Plaque que l'on cherche et qu'on a bien du mal à trouver. Je raconte pourquoi dans le livre. Et qu'on trouve finalement avec, en effet, ce nom gravé comme ça sous mes yeux, Isaac Savelski. Et ce nom que je connaissais même pas, en fait, parce que ma grand-mère, donc sa fille, qui était dans cette volonté tellement forte de rupture, elle l'appelait jamais par son nom. Jamais. Ce qui fait que... parce que Isaac ne fait pas très breton. Quoi. Donc voilà, c'est une première découverte qui, en effet, va inscrire les choses dans la réalité, en fait. Et dans le temps, dans l'histoire, puisque sur cette plaque, il y a aussi les dates durant lesquelles il a officié dans cette synagogue. Et ces dates sont très surprenantes, puisqu'elles englobent la période de l'occupation. Donc c'est... rien que voir cette plaque, c'est découvrir son nom et relancer une deuxième forme d'enquête beaucoup plus historique cette fois, qui est comment il a pu officier pendant la période de l'occupation. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette synagogue pendant l'occupation, et on va découvrir qu'en fait effectivement Isaac est resté, et que non seulement il est resté, mais qu'il a maintenu la synagogue ouverte pendant toute la durée de la guerre, et que dès qu'il y avait Minyan, les 10 personnes requises, il s'est débrouillé pour que les offices aient lieu jusqu'à la fin de la guerre, et il est mort en 1948, donc il n'a pas été inquiété.
Dans ce récit très personnel, Léa Weinstein ébauche des réponses comme on se ferait un chemin, tantôt indignée, inquiète ou apaisée. Grâce aux témoins d'hier et d'aujourd'hui, grâce aux documents qu'elle retrouve au cours de son enquête, elle parvient à nous offrir un texte tendre et sans complaisance. Une réflexion absolument passionnante sur les origines, la culture, l'identité et la religion, un portrait d'Isaac, le rabbin de Neuilly, est un gros coup de cœur que je vous recommande chaleureusement. Isaac, de Léa Weinstein, sorti il y a déjà quelques temps aux éditions Grasset.
Tous les instruments à cordes sont en bois, mais ce ne sont pas eux qu'on appelle les bois. Ce terme désigne une autre famille d'instruments qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément en bois. Il s'agit en tout cas d'instruments à vent, faits d'un tube percé de trous sur les côtés. Le musicien, tout en soufflant dans le tube, produit différentes notes en bouchant certains trous avec ses doigts. On la tient de côté, d'où son nom de flûte traversière. Et si l'on se sert encore quelquefois de flûte de bois ou flûte à bec, celle que vous allez entendre est en argent. Voici les notes qu'on peut tirer de la flûte.
n'est pas peu dire que les séries ont tout changé. Nos loisirs, nos vies, nos rapports à la culture. La sériephilie que ces grands récits du XXIe siècle suscitent le prouvent. Elles sont au cœur de la culture populaire d'aujourd'hui. Pour Sandra Laugier, professeure de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteure du livre « Nos vies en série » aux éditions Climat Flammarion, elles produisent une philosophie nouvelle. Non pas une philosophie des séries, mais de véritables œuvres à penser.
Ce qui s'est passé, c'est peut-être en plusieurs étapes. Hein, je crois que les feuilletons télévisés, il y en a vraiment depuis l'existence de la télévision. Hein, ça faisait partie vraiment du médium. Mais c'est vrai que ces séries étaient cantonnées un public plutôt familial, hein, féminin. Là où les choses ont changé, c'est vraiment dans les années 90. C'est sûrement avec des séries comme Urgence, par exemple, ou La Maison Blanche, hein, qui étaient des séries sur les networks, sur les chaînes classiques, hein, plus particulièrement des gens qui rentraient du travail, qui regardaient les séries. Et c'est vraiment à partir de là, en fait, qu'il y a eu un développement plus important, parce qu'on pense toujours ce tournant du siècle avec HBO, mais en fait c'est vraiment lorsque il y a eu un ensemble de séries qui ont été très soigneusement aussi écrites, mises en scène, hein, avec une implication.
Le réalisme des séries télévisées, le fait qu'elles ont pour matière la réalité quotidienne, mais aussi qu'elles font désormais partie de la réalité humaine. L'ouvrage de Sandra Laugier se distingue des autres livres sur le sujet parce qu'il fait le récit de la façon dont la philosophie a été saisie par les séries. Lovée dans l'intimité de nos vies, elles constituent un art du familier. Par les discussions qu'elles suscitent, elles sont l'occasion d'une éducation démocratique. Si les questions surgissent dans l'intime, elles prouvent leur prolongement dans l'expression publique et finissent par métamorphoser nos vies, tant privées que communes. Les séries fonctionnent comme des miroirs du public et donnent à penser nos formes de vie, conjugales, familiales et politiques. Dans les pays grands producteurs de séries, les scénaristes israéliens ont particulièrement compris les enjeux de cette mécanique.
Je pense que c'est vraiment cette situation quand même très difficile d'Israël. Le fait de vivre dans une situation de danger, en fait. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui est quand même une expérience très particulière, qui va en fait donner cette compétence et puis aussi un intérêt immédiat du public pour les séries qui vont porter sur ce sujet. Et ensuite, au-delà des séries sécuritaires qui portent sur l'espionnage ou la guerre, où Israël est vraiment leader, mais je pense qu'il y a quand même une espèce d'audace et d'imagination, en fait. Si vous regardez une série comme En Thérapie, une série comme On the Spectrum, qui est une série sur les jeunes, sur des jeunes autistes, par exemple. Si vous pensez à une série comme Euphoria, qui est quand même sur une jeunesse un peu dégénérée, entre guillemets, hein, des jeunes qui ont des modes de vie assez particuliers, vous voyez qu'il y a aussi, en fait, une espèce de liberté d'esprit et d'audace chez les créateurs.
On redécouvre que la chose importante était de réaliser que le cinéma n'était pas un objet, mais une expérience, et aller au cinéma est une expérience de pensée. C'est cette idée que Sandra Laugier reprend pour les séries dans son ouvrage. Ma recommandation de lecture de cette semaine, c'est « Nos vies en série » de Sandra Laugier aux éditions Climat Flammarion. Ainsi se termine notre émission du jour. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 16h. Et je vous laisse en compagnie des programmes de Radio Aviva pour votre début de soirée. À demain et portez-vous bien. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. It's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva.